Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Quand on pense au logement, on pense plutôt sécurité, architecture, confort, patrimoine et pas forcément précarité et risque pour la santé. Et pourtant, sans y être forcément confronté, on peut bien imaginer quelles peuvent être les conséquences d'un logement minuscule que se partage une famille nombreuse, des pièces humides, mal aérées, cet habitat insalubre qui se réduit pour certains à des baraques chancelantes bâties en bordure de route, quand pour d'autres, eh bien, les événements, ruptures, perte d'emploi, violence, conduisent à une perte pure et simple du logement. Précarité du logement ou absence de logement, autant de situations qui peuvent rendre malade. Infections respiratoires ou dermatologiques, matériaux dangereux qui intoxiquent les occupants, exiguïté, surpeuplement qui épuise et peut altérer la santé psychique, exposer à des risques d'accident, empêcher de cuisiner et donc de se nourrir correctement. Et souvent, ces différents problèmes s'ajoutent les uns aux autres. Et pour les personnes sans logis, cela se traduit également sur le plan médical par un risque d'exclusion des soins, d'arrêt dans les suivis très préjudiciable, surtout en cas de pathologie chronique. La santé, c'est une question de soins, d'information comme de prévention, mais encore faut-il pouvoir évoluer dans un environnement immédiat, sa maison, qui n'expose pas à des risques supplémentaires. Comment soigner et quelles actions pour protéger les populations vulnérables, victimes notamment de l'insalubrité? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Quand le logement ou l'absence de logement rend malade, quelle prise en charge au niveau individuel, quelle prévention, quelle réflexion, quelles actions surtout pour changer les choses? Deux invités avec nous en studio aujourd'hui. Docteur Maddy de Nantes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste à la Maison de Santé des Pyrénées-Belleville, présidente du pôle de santé des Envierges à Paris. Également avec nous, Manuel Domergue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, porte-parole du collectif des associations unies pour une nouvelle politique publique du logement. Des symptômes, des maladies directement liées à l'insalubrité, nous donnerons la parole à Mathé Toulier, présidente de l'association des familles victimes du saturnisme, cette intoxication au plomb, habitat infesté de parasites. Nous joindrons Nawel, infirmière diplômée d'État qui participe au groupe Punaise de Lit dans le 20e arrondissement de Paris, là également où vous exercez, docteur Maddy de Nantes.
Priorité santé sur RFI.
Docteur de Nantes, quand on s'intéresse à la santé des populations vulnérables, hein, c'est votre cas de longue date, cette question de la qualité du logement, elle se pose forcément, en particulier dans des zones urbaines. On pense à Paris, là où les prix, les conditions d'accès au logement sont très très loin d'être faciles ou abordables. Est-ce que ça veut dire en consultation qu'à chaque fois, presque, la question se pose directement, dans quel cadre vivez-vous ?
Oui, ça fait partie des questions que nous devons poser en soins primaires, savoir le cadre de vie. Ça fait partie des questions, des éléments qui vont intervenir sur la santé. Donc, pour agir sur la santé, il faut agir aussi sur les déterminants sociaux de santé. Et donc, nous avons fait un groupe de travail au niveau de Paris-Sorbonne à la faculté. Et on a déterminé imaginé la vie comme un trampoline et l'importance d'avoir un trampoline qui rebondisse bien en cas d'accident. En cas d'accident de vie, ça peut être un deuil, une maladie, une séparation. Et on a déterminé, on a réfléchi à qu'est-ce qu'il fallait pour que la personne rebondisse et n'ait pas, et que les choses ne s'aggravent pas. Et on a déterminé quatre points, quatre élastiques, on a appelé élastiques. L'accès aux soins, bien sûr, si on est malade, il faut accéder aux soins. La vie professionnelle, la vie socio-affective, son entourage et l'habitat, ce qui est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Une personne, c'est un élastique capital en cas de séparation, en cas de difficulté. Pour rebondir, il faut avoir un habitat solide, sans précarité du logement.
Et c'est le centre de votre action, hein, Manuel Domergue. Vous coordonnez depuis 8 ans déjà le rapport annuel sur le mal-logement, logement indigne, logement précaire pour la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous avez vu la situation évoluer? On a 8 ans de recul. Cette année, bien sûr, il y a l'échéance de l'élection présidentielle. Donc, on a un petit peu appelé les différentes personnes qui prétendent à occuper ce poste suprême à dire ce qu'ils avaient en tête pour le logement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous constatez, cet état des lieux. C'est quoi, puisqu'on est dans Priorité Santé, notamment les conséquences en termes de santé?
Alors, l'état des lieux sur le mal-logement, il évolue lentement. L'immobilier, ce n'est pas quelque chose qui change d'une année sur l'autre massivement. Ce qu'on voit quand même évoluer ces dernières années, c'est la question, par exemple, de la précarité énergétique. Pourquoi? Parce qu'on a un parc de logements qui est assez mal isolé, 5 à 7 millions de passoires énergétiques en France, et puis des prix de l'énergie qui augmentent. Et là, c'est le cas en plus depuis quelques mois, et peut-être dans les mois qui viennent aussi. Et ça, ça a des répercussions assez rapides sur le niveau de précarité énergétique. Il y a 12 millions de personnes en France qui sont précaires énergétiques, avec des conséquences, vous l'avez dit, directes sur la santé en termes de troubles respiratoires, les bronchiolites, l'asthme, etc.
Et ce qu'il faut pointer, excusez-moi, c'est que très souvent, en fait, plus les logements sont mal isolés, ça fait partie justement de ces conditions de précarité, et plus les occupants, en plus, ont des ressources limitées pour payer leurs factures. Donc, c'est encore une double peine.
Exactement. La précarité énergétique, c'est la rencontre entre des mauvais logements et des difficultés économiques pour payer son chauffage. Et ça, ça se retrouve de plus en plus en ce moment. Donc, il y a des solutions que le gouvernement essaie d'apporter, des chèques énergie, etc. Mais ce n'est pas à la hauteur de la hausse des prix qu'on connaît. Et c'est vrai que le logement est de plus en plus vu comme un déterminant très important de santé publique. Et on l'a vu, par exemple, avec la crise Covid. Un bon logement, ça peut être une bulle protectrice face aux maladies, mais ça peut être aussi un piège quand il est de mauvaise qualité.
Et on en reparlera tout à l'heure, justement, notamment la question de l'exiguïté, de la promiscuité. Il y a un vrai effet d'accumulation. Docteur Maddy de Nantes, hein. Les affections, les symptômes peuvent d'ailleurs se rencontrer à plusieurs échelles parce que, on va dire, les problèmes s'accumulent, les maladies, les affections, les risques pour la santé s'accumulent aussi.
Oui, c'est une association en fait. Et si le logement, si on a des problèmes de logement, une promiscuité, vous le disiez, une insécurité aussi, le risque d'être expulsé. Nous voyons des gens qui sont dans un état de panique parce qu'ils menacent l'expulsion et ils ne savent pas, juste pas où ils vont aller. Et bien sûr, les environnements toxiques dont vous avez parlé, tout ça s'additionne et fait créer une immense fragilité et un risque au moindre choc de l'existence, un risque de dégringolade avec des conséquences gravissimes au niveau de la santé, voire au niveau de la mortalité, puisque comme le risque et la mortalité précoce. C'est là-dessus que nous travaillons quand nous travaillons sur les inégalités sociales de santé.
Alors, une première illustration avec justement ce logement précaire, solution temporaire, ça devait être ça. Ça dure depuis 10 ans pour Lila et ses 2 enfants, qui est toujours en attente d'un logement social. Cette famille est soutenue dans ses démarches par l'association Droit au logement. Et donc, depuis plusieurs années, avec ses enfants, Lila partage un minuscule rez-de-chaussée à côté de Paris. Elle a ouvert la porte de son appartement à Alice Rougeard.
Oui, entrez. Je m'appelle Lila, j'ai 44 ans. J'habite ici dans ce studio de 24 mètres carrés avec mes 2 enfants de 16 ans et 10 ans et notre petit chat. Comme vous voyez, le studio se constitue de la pièce à vivre. Donc la petite entrée où il y a à gauche, une kitchenette. Et à droite, il y a la salle de bain. Et à partir de l'entrée, la salle de bain et la cuisine, elle est très mal isolée. On dirait qu'on est à l'extérieur. Donc, on la sépare avec ce rideau, histoire d'avoir un peu on garde un peu de chaleur dans la pièce à vivre. Comme vous voyez, l'aménagement, donc il y a le lit de ma petite princesse. Et là, c'est le lit du grand garçon que vous voyez ici. Et là, c'est mon lit que je retire le soir et je range le matin. On vit ici, et les enfants ils font leurs devoirs ici, et on dort ici, on parle au téléphone ici, on regarde la télé ici, tout ici, quoi. La pièce, franchement, j'essaie de la maintenir, on va dire, sec, sans humidité, histoire qu'on respire sainement, pour qu'on ne tombe pas malade, mais ici à là-bas, c'est invivable.
D'ailleurs, on va y aller, on va vers la salle de bain. Alors, on entend déjà un souffle, on sent des odeurs de cuisine aussi super fortes.
Oui, parce que le souffle, on a un conduit d'aération. Est-ce qu'il est défectueux ou pas, je ne sais pas, mais à chaque fois que les voisins cuisinent, ça sort tous ici.
Et alors, la salle de bain, il y a des énormes moisissures qui courent sur tout le mur. à tel point que la peinture s'écaille à peu près partout, surtout tout le long du conduit d'eau. Et ça, vous me disiez, vous le nettoyez régulièrement.
Je le nettoie chaque 2-3 semaines, je mets de l'eau de Javel et je nettoie, donc ça devient blanc. Après, même pas, là, ça ne fait pas 2 semaines que je l'ai fait. Ce côté-là, il est très, très humide. Au moment où on prend une douche, ça caille.
Il y a un chauffage qui fonctionne ici ou...
À l'intérieur, non, je n'ai pas de chauffage. J'ai essayé de faire un souffleur, histoire quand les enfants prennent une douche qui ne sent pas froid, mais ça bouffe de l'électricité, comme vous savez, et entre parenthèses, pas trop les moyens pour... J'ai fait 890 € d'électricité l'année passée. Donc cette année, j'ai débarrassé le souffleur, j'ai dit mes enfants, quand vous prenez une douche, vite fait, vous allez dans la pièce et puis voilà quoi. Quand vous voyez aussi la porte, elle est toute gonflée.
La porte d'entrée, oui.
Quand elle est comme ça, quand elle est gonflée, quand il fait très très froid et humide, elle a du mal à ouvrir.
Et alors là, donc on fait juste un mètre de différence et on rentre dans la cuisine qui est dans un état peut-être pire encore parce qu'il y a la fenêtre qui donne sur l'extérieur qui ne doit pas isoler grand-chose, cette fenêtre en simple vitrage.
Du tout. En hiver, ici, c'est très 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 froid.
C'est pour ça que vous mettez un carton pour un vous carton isoler
pour... Oui, voilà, un carton pour absorber un petit peu le froid. Mais comme vous voyez, donc la peinture, elle est toute décollée. Le plan de travail au-dessous. Et ça m'arrive de mettre des produits en bas et ça pourrit. Ça pourrit même pas. 2-3 mois, ça pourrit, donc je jette. Déjà psychologiquement, ça pèse et sur moi et sur les enfants. De vivre l'un face à l'autre. Ça m'arrive des fois de m'énerver contre les enfants pour rien. J'essaye de ne pas trop leur montrer et de faire le maximum afin qu'ils ne sentent pas leur différence par rapport aux autres.
Je m'appelle Mayas. Bah, y a qu'un seul copain qui sait que j'ai invité ici. Il connaît bien ma vie, c'est mon meilleur pote. Du coup, bah, je l'invite chez moi. Et y a que lui qui est au courant que j'habite ici, sinon... J'aimerais bien inviter d'autres amis à dormir, mais il n'y a pas assez de place.
Par rapport à la petite, elle me pose trop beaucoup de questions. « Maman, j'ai envie d'avoir ma chambre. » Surtout quand elle se fasse inviter par ses copines. Bon, ma fille, elle est scolarisée dans un quartier un peu, on va dire, chic. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on passe par les magasins, « Moi, maman, quand j'aurai ma chambre... » Je voudrais la décorer comme ça ou comme ça ou comme ça. C'est vraiment... Moi, à l'intérieur, ça me tue, mais c'est frustrant. C'est le mot. Et pour moi, et pour lui, et pour elle, c'est vraiment frustrant.
Reportage d'Alice Rouget, Impact pour la santé, Impact social. Ne pas pouvoir accueillir les copains à la maison, ça peut sembler complètement anecdotique, mais c'est vraiment essentiel, docteur Maddy de Nantes, parce que finalement, les enfants... Ils ont, avec eux, ils héritent d'une forme de honte de ce cadre de vie. On n'invite pas les copains aussi parce qu'on n'a pas envie de montrer qu'on est dans la misère.
Et c'est très poignant ce reportage qui dit tout, hein, la honte, le froid, l'humidité, les écailles de plomb. Les écailles de peinture, c'est peut-être du plomb si l'habitat a été construit avant 1949. Et puis, quand même, on parle de deux enfants, c'est l'avenir de la France, c'est ces enfants, 16 et 10 ans. Qu'est-ce qu'on leur prépare ? Avec la honte, donc des troubles psychologiques, au lieu de les aider à s'épanouir pour être les futurs citoyens de notre futur, de l'avenir, on en fait quoi ?
Ça veut dire aussi, faut aussi le souligner, Manuel Demers, qu'il y a des personnes qui louent ces choses. C'est des passoires énergétiques, c'est insalubre. Il faut quand même que ces familles, que cette femme seule avec deux enfants, payent. Pour, on va dire, je vais le dire le mot, pour ce taudis.
Oui, tout à fait, c'est la double peine. C'est-à-dire que dans les zones tendues, en fait, il y a une telle demande de logement que les bailleurs peuvent se permettre de louer à peu près n'importe quoi, à n'importe quel prix, parce qu'il y a très peu de mesures de protection pour les locataires dans ce cas-là, il y a très peu d'encadrement des loyers, et des ménages comme cette famille voient leur vie gâchée sans beaucoup de possibilités de recours, parce qu'il y a aussi, la solution serait de faire une demande de logement social,
mais c'est fait depuis 10 ans.
Sauf qu'il y a 2 millions de ménages en attente de logement social, et que dans des villes comme Paris et même la petite couronne parisienne, c'est souvent 10 ans d'attente.
Alors, tout à l'heure, vous parliez des passoires énergétiques. Là, c'en est une véritablement à tout niveau. Il y a des conduites d'air qui arrivent de chez les voisins qui sont extrêmement mauvais. Les fenêtres ne sont pas isolées. Il y a de l'humidité partout. Ça veut dire, là aussi, quand il y a des moisissures, je me tourne vers vous, docteur Maddy de Nantes, quand on vit dans la moisissure, il y a des réels risques pour la santé.
Bien sûr.
Même si cette maman essaie de nettoyer régulièrement.
Bien sûr. Donc les moisissures, c'est les risques d'allergie, d'atopie, c'est les risques respiratoires, c'est beaucoup de risques pour la santé. Et puis, écailles de peinture, je pense au plomb et risques de saturnisme, bien sûr.
Des pathologies au pluriel hein, qui peuvent, on le disait tout à l'heure, s'ajouter les unes aux autres. Précisément, pour revenir à cette maladie extrêmement emblématique des conditions de logement précaires, le saturnisme. Vous êtes médecin, c'est quoi les symptômes du saturnisme? Et en fait, quand ces symptômes sont là, est-ce que ça veut dire déjà que c'est un petit peu trop tard?
Oui, le saturnisme, c'est une intoxication au plomb. Et en fait, les symptômes ne sont pas du tout typiques. Quand on a des symptômes typiques, c'est des intoxications gravissimes. Mm-hmm. Mais les intoxications modérées, il n'y a pas de symptômes. Mm. Donc, on sait qu'il y a des répercussions sur le développement intellectuel. Donc, c'est une perte de chance pour ces enfants. Par contre, il n'y a pas de symptômes qui permettent de le dépister. Le symptôme, c'est la question... Comment, où habitez-vous, dans quel état est votre logement et de quand date la construction, si la personne le sait. Mais c'est, y a pas de signes cliniques qui peuvent nous dire « tiens, c'est du saturnisme ». Il faut agir avant. On n'a pas le droit d'attendre les signes cliniques gravissimes, puisque je vous rappelle que le saturnisme peut donner des encéphalopathies et tuer. Mais bien entendu, il ne faut pas attendre la gravité. Il faut intervenir dès le début. Et les petites intoxications, c'est les intoxications à faible niveau qui ne vont pas tuer, vont jouer sur les capacités intellectuelles, les développements cognitifs de l'enfant. Donc c'est tout à fait gravissime. Là aussi, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu.
Et dans le domaine de la lutte contre cette maladie, un certain citoyen, certaines associations peuvent avoir un rôle important. Mathé Toulier, bonjour. Vous présidez l'association des familles de victimes du saturnisme. On va commencer par un petit retour en arrière, si vous le voulez bien, pour expliquer comment votre association a-t-elle vu le jour.
Elle a vu le jour en 1998, alors que des enfants mouraient de saturnisme à Paris. Et donc, des familles se sont mobilisées pour éradiquer les causes de cette intoxication par le plomb qu'on ne peut pas soigner.
Alors, le plomb toxique, il se trouve dans quel matériau, pour être très concrète, de quelle manière est-on contaminé par le plomb?
Alors, la principale source d'intoxication, c'est dans les logements, et dans les logements, ce sont les peintures qui ont été vendues et utilisées jusque dans les années 1990. S'il y a un peu d'humidité, des chocs, etc., les peintures anciennes reviennent à la surface et les petites particules de peinture au plomb se détachent et deviennent accessibles, notamment pour les enfants qui peuvent les ingérer, les avaler, hein, et les conséquences vont être graves pour eux.
Donc l'important, c'est bien de savoir s'il y a ces peintures toxiques qui sont présentes. Ça veut dire qu'il faut explorer les habitations pour une meilleure prévention, pour le suivi aussi des personnes qui vivent dans des logements anciens ou des logements vétustes. Quel est le lien justement entre ce saturnisme et le logement insalubre?
Dans les logements insalubres, les logements suroccupés, il y a forcément des risques supplémentaires d'humidité. Les peintures sur des fenêtres écaillées qui n'ont pas été correctement entretenues.
Des équipements en mauvais état. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, la législation permet de prévenir le saturnisme plus efficacement?
Alors, il y a une mesure qui a été prise en 2008. C'est le constat de risque d'exposition au plomb, le CREP, qui est obligatoire à chaque fois qu'on achète un logement construit avant 1948 ou qu'on loue un logement construit avant 1948. Donc ce crêpe, nous le trouvons, nous, insuffisant, puisque ce sont pour les logements construits avant 1948 qui étaient obligatoires, alors que les peintures au plomb ont été utilisées jusque dans les années 1990.
En fait, au-delà du constat lors de cette exploration, est-ce qu'il y a une obligation de travaux pour les propriétaires ou pour les bailleurs ?
Oui, tout à fait. Si il se révèle qu'il y a du plomb accessible dans le logement, le propriétaire est obligé de faire des travaux. S'il ne les fait pas, la préfecture se met à sa place, fait les travaux et se fait rembourser ensuite. N'agissant contre le plomb, on agit aussi contre d'autres problèmes de santé, hein, toutes les allergies, les asthmes, etc., et puis la destruction des vermines.
Merci beaucoup, Mathé Toulier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous me faites signe, m'a dit de Nantes, docteur de Nantes. Bien sûr, vous allez réagir, vous avez la parole.
Je voulais rajouter à ce témoignage de l'Association des familles victimes du saturnisme que le plomb, le saturnisme, l'intoxication par le plomb, est une maladie qui se transmet à des générations futures qui n'existent pas encore. Le plomb est un métal lourd. Les petites filles qui s'intoxiquent aujourd'hui, le plomb est stocké dans l'os. Quand elles seront enceintes dans 20 ans, elles relargueront du plomb et elles intoxiqueront leur fœtus. Donc c'est, à ma connaissance, la seule maladie où se joue la génération d'après. On ne peut pas laisser passer ça dans l'indifférence.
Et on le comprend bien, Manuel Domergue, des règles, des législations, on a entendu, hein, y a des choses qui sont faites. Mais on a envie de dire, et après, ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui vivent dans ces conditions. En cas d'infraction, est-ce que ça suit en termes de rénovation, de réhabilitation ? Parce que tout à l'heure, je disais, il y a bien quelqu'un qui touche un loyer du taudis qu'on entendait dans le reportage d'Alice Rougeat. Les propriétaires, on dit, de logements indignes, de temps en temps, dans l'actualité, ils sont pointés du doigt. Quand on découvre une famille dans 9 mètres carrés, dans des conditions absolument improbables, voire même plus dramatique quand il y a un incendie, ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut aussi, quand on est dans une vulnérabilité sociale, voire même en précarité administrative, pas évident d'aller alerter des associations, de porter plainte, qu'est-ce qu'on peut faire ?
L'histoire du saturnisme, elle est extrêmement intéressante parce que ça touche encore des milliers de logements, mais ça a été divisé par 20 depuis 30 ans. Mmh. Pourquoi ? Parce que des associations se sont mobilisées, des familles se sont mobilisées et des normes obligatoires ont été prises. Pas toujours respectées, vous l'avez dit, mais quand même, le saturnisme, quand il y a une alerte au saturnisme, il y a des actions qui sont prises parce qu'on sait maintenant que ça touche les enfants et que c'est irréversible. Donc c'est extrêmement grave. Ça veut dire que quand on veut s'attaquer à des problèmes liés à la santé dans le logement, on peut y arriver. Le problème, c'est que il y a encore évidemment des troubles qui perdurent, notamment habitat indigne, humidité dans 20% des logements, les 5 à 7 millions de passoires énergétiques dont j'ai parlé. Et il n'y a pas encore cette prise de conscience, similaire au saturnisme, que ça peut toucher et que ça touche des millions de personnes, notamment les enfants, dans leur santé, dans leur espérance de vie. Donc aujourd'hui, il faut que les autorités prennent ça au sérieux, dégagent des moyens, parce que rénover les logements, notamment en région parisienne, ça coûte énormément d'argent, mais c'est nécessaire. Je rappelle qu'on dépense 800 millions d'euros de soins en lien avec la précarité énergétique. Donc l'investissement public pour rénover les logements, c'est un investissement qui est rentable, qui sera rentable dans les décennies qui viennent, à condition de le faire maintenant. Et puis, il faut des normes. Il faut que les bailleurs assument leurs responsabilités. Quand on met un logement en location, il doit être aux normes. Et les normes de décence liées à la performance énergétique vont s'accroître dans les années qui viennent. Heureusement, c'est un long combat des associations. Et il faudra être sévère avec les bailleurs. Parce que les bailleurs savent bien que parfois, il y a des arrêtés d'insalubrité, par exemple, qui sont pris par les autorités locales contre eux. Sauf que les autorités locales, ayant peu de moyens, parfois peu de volonté politique, pour imposer des travaux d'office et ensuite recouvrer les sommes sur le budget des bailleurs, souvent, il ne se passe rien. Et donc, l'arrêté tombe de lui-même et rien ne se passe. Donc, il faut taper au porte-monnaie les bailleurs indélicats, voire les marchands de sommeil. Ça se fait de plus en plus. Les condamner à la prison quand ils sont vraiment en faute et qu'on parle parfois de situations extrêmement graves, ça vient de plus en plus. Ça s'est vu notamment à Marseille ces derniers temps parce que derrière, il y a la vie de personnes qui est en jeu. Donc, il faut plus de sanctions et plus de moyens financiers.
L'indignation, c'est bien. L'action, c'est mieux. Docteur de Nantes, Il y a toute une série de pathologies. On a parlé rapidement des maladies respiratoires, la moisissure, l'humidité. On a parlé du saturnisme, donc atteinte neurologique. Mais c'est vrai aussi, quand on a une maison trop petite, on tasse, voire on peut mettre une chaise près d'une fenêtre. Il peut y avoir un accident domestique, un enfant qui passe par la fenêtre. C'est tragique, mais ça arrive. L'accident de feu, électricité, tout ça, on n'y pense pas forcément, mais ce sont vraiment des conséquences multiples. Et puis aussi, sur le plan des maladies infectieuses, ça peut provoquer de véritables problèmes quand il y a transmission, contamination.
Et on en a eu un exemple épouvantable pendant le premier confinement, donc en mars-avril 2020, quand on a été tous confinés et qu'on s'est rendu compte que les plus touchés étaient ceux où le confinement rendait encore plus malade, puisqu'ils étaient dans un habitat tellement suroccupé, tellement petit, souvent avec des personnes qui allaient travailler à l'extérieur parce qu'elles faisaient des travaux essentiels. Mais bon, nous, les médecins aussi, on allait travailler, sauf que quand on rentrait chez nous, on était en sécurité, on pouvait mettre en règle des normes de sécurité pour nous protéger, nous et nos proches. Et là, les personnes allaient travailler, par exemple comme caissier dans un supermarché, et quand elles revenaient chez elles, elles contaminaient la famille parce qu'elles étaient en logement suroccupé, une personne âgée dans la famille qui donc n'était pas bien protégée, hospitalisation, réanimation, décès, ça a été une catastrophe et cette violence de l'habitat a été vraiment mise en évidence pendant ce premier confinement. Nous, on l'a vécu en direct avec nos patients.
Et on l'a vu notamment dans certaines régions françaises particulièrement mal loties sur le plan social. Ça s'est vu directement dans les services de réanimation. Il y avait une suroccupation encore plus importante. On va poursuivre notre échange. On va constater cette grande diversité justement par rapport aux maladies, aux atteintes possibles. On abordera aussi, c'est très important, la situation des personnes sans domicile fixe. Parce que ça aussi, il y a les problèmes de logement, mais aussi l'absence de logement. Le problème de la continuité des soins. On va vous retrouver tous les deux, Manuel Domergue, Madi de Nantes, juste après Lucia de Carvalho, Humano.
Tem gente cansada, gente enganada, oh gente. Tem gente malvada, manipulada, oh gente. Tem gente frustrada, gente calada, oh gente. Tem gente feliz, bem feliz. Tem gente amada, gente abusada, oh gente. Gente zangada, gente do nada, oh gente. Tem gente mimada, imaculada, oh gente. Tem gente feliz, feliz. O humano é rico quando sabe dar. O humano é bicho. O humano é nobre quando sabe amar. O humano é. Gente esperando, gente avançando, a gente. Tem gente pulando, gente correndo, a gente. Tem gente nadando, gente voando, a gente. Tem gente feliz, simplesmente feliz. Tem gente gastando, gente curtindo a vida, oh gente. Tem gente sonhando, conscientizando que é gente. Tem gente negando a felicidade, oh gente.
Priorité santé sur RFI, logement et santé, c'est notre sujet du jour. Habitat mal chauffé, surpeuplé, matériaux toxiques. Quelles conséquences pour la santé physique et mentale des occupants? On continue d'échanger avec nos deux invités, docteur Madi de Nantes, médecin généraliste à la maison de santé Pyrénées-Belleville à Paris, Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé Pierre, tout à l'heure en première partie d'émission, on a parlé du saturnisme. Et dans certains logements insalubres, ce sont des parasites, des insectes qui pourrissent littéralement la vie des occupants. Infestation qui fait vivre donc aux habitants un véritable cauchemar. On en parle tout de suite avec vous. Nawel, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes infirmière à domicile dans le 20e arrondissement de Paris, j'en fais pas mystère. Vous travaillez aussi avec le docteur Madi de Nantes. Vous faites partie du collectif dédié à un groupe qui s'appelle Punaise de Lit. Hein. Oui. Les gens qui vivent dans certains quartiers de Paris connaissent bien ce que sont ces punaises de lit. On en a une illustration quand on se promène sur les trottoirs et qu'on voit des meubles exposés par terre. Pourquoi ? Simplement parce que les gens sont infestés, ils se débarrassent comme ils peuvent. Et qu'à la fin, ça devient invivable de vivre avec ces insectes. Comment ce groupe Punaise de Lit a-t-il vu le jour, Nawel ?
Eh bien, il a vu le jour avec du coup, des médecins généralistes, des infirmiers, des usagers, des professionnels du social. Parce qu'on a fait un constat, c'est que de plus en plus de logements sont infestés de punaises de lit. Et ce qui était exceptionnel encore il y a quelques années devient de plus en plus commun. On intervient de plus en plus dans des logements qui sont infestés de punaises. Et surtout qu'on n'est pas du tout égaux face à ça. Une personne jeune et en bonne santé... peut-être faire des traitements et des choses, mettre en place des choses pour se débarrasser des punaises. Et nous, les personnes chez qui on intervient, qui sont des personnes en général dépendantes, pas toutes précaires, mais qui ont un certain degré de dépendance, c'est très compliqué pour elles d'éradiquer ces nuisibles, en fait. Hein.
Et juste au niveau du repérage, hein, pour bien comprendre, parce que tout le monde sur la planète n'est pas forcément familier avec, je suis pas méchante, mais avec ces sales bêtes, ça ressemble à quoi ? Comment est-ce qu'on les repère ?
Alors, une punaise de lit, il y a souvent cette comparaison qui est faite, c'est un pépin de pomme. Mmh. Ça, une forme un peu de pépin de pomme. Et c'est un nuisible qui est marron, qui est visible normalement à l'œil nu. Après, je pense que les bébés punaises, je ne sais pas si c'est vraiment visible, mais en tout cas, nous, on peut les détecter en les voyant à l'œil nu au domicile des patients. Alors, ça se niche surtout dans les lits, au niveau des têtes de lit, au niveau des sommiers. Des fois, on en voit à l'œil nu sur les oreillers des patients. Ça se vit. Et alors, surtout, comme on détecte aussi, c'est que nous, pour ma part, en tant qu'infirmière, quand j'arrive, souvent les patients, ils se plaignent ils ont des lésions de grattage. Mmh. Souvent, c'est sur les avant-bras, le dos, des boutons. Au niveau du visage aussi.
Ils savent pourquoi ils ont justement ces démangeaisons, ces problèmes dermatologiques. Ils font le rapport avec les insectes ou ils le découvrent ?
Alors, pas forcément. Il y en a qui disent, je me gratte. Et en fait, c'est vrai que... Bon, il y en a qui les voient et qui font le lien. Et il y en a qui ne font pas forcément le lien, en fait, qui ne se rendent même pas compte de leur présence parce que ça sort beaucoup la nuit. Des fois, quand le logement est vraiment infesté, on peut en voir en plein jour sur les murs, partout. Mais parfois, quand ça commence dans un logement, il y en a un peu la nuit et c'est au niveau du lit, quoi.
C'est vrai que vous qui exercez à domicile en tant que soignante, en tant qu'infirmière, ça peut vraiment poser un problème. Si vous allez par exemple voir une personne âgée qui a besoin de soins, la question va se poser, si vous entrez chez elle, est-ce que vous ne vous exposez pas vous-même à une contamination ?
Ah si, mais complètement. Nous, on risque d'en ramener avec nous, chez nous, quoi. Mmh. Intervenir dans ce type de logement, c'est très compliqué parce que des fois, on a des interventions plus ou moins longues. Donc, on garde notre veste, on essaye de ne pas trop se dévêtir, à moins d'avoir prévu le coup, quand on le sait, d'apporter un sac poubelle, de mettre nos vêtements dans un sac poubelle. Et encore, on n'est même pas sûr de ne pas en ramener avec.
Nawel, restez avec nous. Je me tourne vers le docteur Madi de Nantes. C'est vrai ce que dit cette infirmière à domicile pour les logements privés. Mais docteur Madi de Nantes, vous avez aussi constaté, y compris dans votre quartier, que c'était vrai aussi pour des structures d'accueil collectives, publiques. Donc ça pose un vrai problème. On va dire, pour tout le monde, c'est un problème de santé publique. Mais là, c'est carrément un scandale.
Tout à fait. Et la CPTS du 20e, auquel j'appartiens avec Nawel, Communauté professionnelle territoriale de santé du 20e arrondissement, on a écrit une lettre au directeur du CASVP, c'est Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, pour dénoncer les conditions, déjà pour nos patients, donc des patients, comme Nawel disait, des patients âgés, dépendants, fragiles, donc qui souffrent de ces démangeaisons, et puis les soignants, donc les infirmiers.
Là, vous parlez pour une maison de personnes âgées.
Une structure d'accueil, la ville de Paris, où il y a des punaises et où les soignants et aussi les auxiliaires de vie, qu'il ne faut pas oublier, ces auxiliaires de vie qui sont capitales pour le maintien à domicile des personnes âgées, vont tous les jours passer une heure, deux heures dans un habitat totalement plein de punaises et la crainte d'en ramener chez elles. Et donc Nawel le disait, pour les infirmières aussi, la crainte d'en ramener chez soi. Nous, par exemple, moi, mes étudiants, je suis maître de stage universitaire, je n'emmène pas mes étudiants dans cette structure de la ville de Paris, parce que je crains que mes étudiants ramènent des punaises chez eux. Mais je pense aux auxiliaires de vie, aux infirmiers.
Excusez-moi, Maddy de Nantes, on a eu ces derniers temps le scandale dans des structures privées pour d'autres raisons sur les personnes âgées. Mais je ne sais pas si le grand public imagine que une grand-mère, un arrière-grand-père se retrouve dans un lit où on a véritablement des insectes qui courent sur les draps et qui, je m'excuse de le dire, mais qui courent sur le corps de ces personnes. C'est absolument épouvantable.
Tout à fait. C'est pour ça qu'avec Nawel, nous avons interpellé le directeur du...
Et c'est à Paris.
Nous avons interpellé le maire avec des propositions. Nous faisons des propositions précises pour que nous, soignants et auxiliaires de vie, nous puissions travailler et bien sûr protéger nos patients, mais que nous aussi, nous soyons protégés.
Parce que Nawel, on vous retrouve en ligne. Il y a des solutions, évidemment, quand on est une personne âgée, qu'on a du mal à bouger, qu'on a du mal à ranger sa chambre, c'est extrêmement compliqué. Mais ça veut dire que des personnes peuvent intervenir, il y a des moyens concrets pour s'en débarrasser et il faut le dire. Nawel, vous êtes avec nous ? Ah, on a perdu Nawel, on va essayer de la rejoindre parce que c'est vrai que par exemple en matière, est-ce qu'on parle de désinfection dans ce cas-là ?
Oui, mais les désinfections, l'éradication des punaises de lit, c'est très très compliqué. Comme Nawel disait, quand on a 30 ans, jeune et que tout va bien, on peut gérer ça. Quand on est une personne âgée, je ne vois pas comment on peut gérer ça. Donc la ville de Paris, par exemple, essaye de faire des éradications, mais c'est à peu près tous les 5 ans. Nous, ce qu'on demande, c'est des interventions mensuelles pour éliminer au moins le plus important pour protéger la personne des démangeaisons et pour protéger les intervenants. Encore une fois, on a besoin d'intervenants qui permettent le maintien à domicile et ce n'est pas en les mettant dans des lieux à risque où ils risquent de choper des punaises qu'on va réussir ce grand défi qui est le maintien à domicile des personnes âgées.
C'est essentiel. Nawel, on vous a retrouvé. Vous faites quoi, vous, quand vous arrivez dans un logement où vous voyez des punaises ? Comment vous travaillez ?
Eh bien, ben, comme je vous disais tout à l'heure, déjà, on essaie de se protéger nous-mêmes. Après, bien sûr, c'est quand même le patient qui reste au centre. Hein. On essaye de faire nos soins au mieux. Et surtout, à notre niveau, d'alerter. Alerter la famille, le gardien, alerter toutes les personnes qui interviennent dans ce logement pour prévenir qu'il y a des punaises, pour faire des choses au plus vite. Sachant que, ce que je vous dis, ça a l'air simple, hein, mais ça prend énormément de temps. C'est hyper complexe. Des fois, il y a des traitements qui sont faits qui échouent, il faut recommencer. Des fois, on doit reloger des patients.
Il faut agir sur tous les textiles, par exemple.
Exactement, il faut agir sur tous les textiles. Alors après, je ne suis pas spécialisée d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a aussi créé ce groupe punaise, pour comprendre en fait qui fait quoi, comment on traite. Enfin, on le sait, hein, on a des idées parce qu'on en a tellement maintenant qu'on avant de ce qui se passe et des traitements qui sont faits. Mais voilà, comment on traite, comment on fait quoi.
Et c'est vrai qu'à la base, on va le rappeler, Nawel, votre métier c'est infirmière et c'est pas de travailler pour une entreprise de dératisation ou désinfection. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. En tout cas, on voit avec ce cas précis, Emmanuel Domergue, vous disiez depuis longtemps, vous travaillez sur ce dossier du logement précaire. Il y a aussi des nouvelles problématiques qui se greffent comme si ça ne suffisait pas. Vous l'avez cité avec l'augmentation très importante des tarifs de l'énergie. Là, il y a ces punaises de lit, ces infestations. Ça veut dire que, est-ce que vous diriez finalement que c'est de pire en pire ? C'est de plus en plus complexe au moins.
Oui, c'est complexe. De pire en pire, c'est pas évident parce que depuis des décennies en France, la qualité moyenne des logements, elle s'améliore.
Et il y a des garde-fous qui ont été installés.
On est mieux logés que nos parents et que nos grands-parents. En revanche, c'est de plus en plus cher. On paye cette amélioration et donc ceux qui peuvent se le payer tout va bien pour eux. Mais en bas de la pyramide sociale, il y a des millions de personnes qui n'ont pas les moyens, qui donc subissent des formes parfois émergentes, effectivement, de mal logement. On a parlé des punaises de lit, la précarité énergétique, l'absence de logement. On a maintenant 300 000 personnes en France qui sont sans domicile, qui sont dans des hébergements, dans des hôtels, à la rue, dans des bidonvilles. Et ça, c'est en augmentation assez rapide ces dernières années.
Et c'est évident, hein, docteur Madi de Nantes, ça devient déjà, c'est compliqué de soigner des personnes qui sont en rupture, mais quand on n'a pas d'adresse, on fait comment pour se soigner ?
Mais ben, c'est terrible, moi j'ai été très impressionnée par le rapport que vous avez
de la Fondation Abbé Pierre,
parce que effectivement, ça fait, je suis plutôt jeune, donc ça fait bien 30 ans, que plus de 30 ans que j'exerce, et j'avais quelquefois, de temps en temps, des personnes qui étaient à la rue. Aujourd'hui, mais c'est très souvent en consultation qu'on voit des personnes à la rue, et surtout ont des personnes menacées d'être à la rue et dans une détresse extrême. Et aujourd'hui, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est des enfants à la rue, c'est des nouveau-nés, c'est-à-dire des femmes qui accouchent avec les mêmes sages-femmes que vous et moi, que nous tous nous avons dans des maternités excellence, avec des enfants, des belles naissances. Et ces enfants de 3 jours se retrouvent avec leur mère dans la rue. Mais ça n'existait pas il y a quelques années. Et en lisant votre... Nous, on est vraiment confrontés à ces gens donc, sans logement ou en danger de ne plus avoir de logement. Et je me disais, bon, ben, heureusement, dans notre pays, il y a des gens qui bossent pour construire des logements sociaux. En lisant votre rapport, je réalise que, ben, que non, on ne construit pas de logements sociaux. Alors que donc, nous, on voit toutes ces difficultés pour notre métier qui est la santé. Comment je peux soigner quelqu'un qui est dans la rue ? Comment je peux travailler sur les inégalités sociales de santé majeures dans notre pays avec quelqu'un qui est dans la rue ? Et je lis dans votre rapport que de l'autre côté, du côté de l'État, des décideurs, il n'y a pas de construction de logement social. Mais je suis tombée des nues. Pour moi, il y avait un sujet majeur auquel s'attaquaient nos responsables.
Et c'est vrai que vous avez notamment sollicité les différents candidats à la présidentielle pour avoir leur... idées, leurs projets en matière de logement social, parce que tout est lié, on l'a bien compris. Hein. Il faut vraiment donner des solutions à ces familles et à ces personnes qui sont en rupture et dans le besoin. Est-ce que c'est quelque chose qui leur parle au-delà, encore une fois, de l'indignation ?
J'ai l'impression que c'est un sujet qui parle aux candidats à la présidentielle. Ils sont venus à la présentation du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Ils avancent des propositions. Le problème, c'est que quand ils sont au pouvoir, et en l'occurrence là depuis 5 ans, les promesses ne sont pas tenues. Vous l'avez dit, le gouvernement n'a pas réussi à augmenter la production de logements sociaux. Ça a même chuté parce que le gouvernement a fait des économies sur les bailleurs sociaux. Ils prennent 1,3 milliard chaque année de ponctions sur les bailleurs sociaux dont le rôle est de rénover, de construire des logements sociaux pour répondre aux dont on a parlé ce matin. Et ça, c'est une économie à courte vue. L'État fait 1 milliard d'euros d'économie, mais va payer beaucoup plus cher pour ensuite aller ramener des gens qui ont été infectés, qui sont à la rue, qui tombent dans l'exclusion, parce qu'il y a ce manque de logements sociaux. Donc à un moment, la santé publique, c'est aussi la prévention. Et le logement, ça fait partie de la prévention.
Une action sur le long terme, même s'il existe, docteur Madi de Nantes, des dispositifs d'urgence, notamment en matière de précarité et de santé. Mais ce qu'on constate, bon, on va dire qu'on est vraiment négatif aujourd'hui, mais c'est pourtant la réalité, c'est que très souvent, ces dispositifs d'urgence sont saturés.
Tout à fait. En plein confinement, donc je reviens sur cette période terrible pour nous tous du printemps 2020, on est en plein confinement. On est, nous, en train de mettre toute notre énergie sur nos patients pour protéger nos patients. Et le 115 ne répond pas. On a des patients...
Le 115, c'est un numéro d'urgence. Le SAMU social, si on voit des gens en errance dans la rue, en situation de détresse, on téléphone et... avec des normes guillemets, normalement, une équipe de maraudes vient assister ces personnes.
Donc on avait dénoncé ça, donc toujours la CPTS, plusieurs CPTS de Paris, on avait dénoncé, le 115 ne répond pas, alors qu'on était, nous, en toute notre énergie sur cette pandémie, le 115 ne répondait pas. Ça s'est arrangé, et là, on doit bientôt rencontrer le SAMU social, et donc tous les jours, j'appelle le 115, tous les jours, je le fais, tous les jours, vous devez renouveler votre appel parce qu'il y a trop de gens. Je n'ai pas réussi depuis une semaine en appelant tous les jours. Ce matin, je me suis levée tôt pour préparer notre rencontre à 6h30. À 6h30, il y a trop d'appels, veuillez renouveler votre appel. Donc, le 115 ne répond pas.
Les conséquences concrètes en termes de santé. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui sont menacées d'expulsion. Et c'est vrai que la précarité, elle est encore associée à des maladies que beaucoup de personnes en France pensent oublier. Je pense à la tuberculose. Quand on est atteint de tuberculose, qu'on va être expulsé, ça, on le sait partout dans le monde, il y a un phénomène qui s'appelle les perdus de vue. Ce sont les personnes qu'on doit soigner parce qu'on doit mettre en place, par exemple, des programmes de médicaments, d'antibiotiques au long cours hein, pour vraiment se débarrasser de la maladie. Quand on est expulsé, ben on n'est plus suivi et on arrête les médicaments et c'est un vrai risque de santé publique.
Oui, ça c'est pas malin. Au niveau de la santé publique, c'est pas malin parce que ça veut dire qu'on a un bacille qui va se répandre alors qu'on a les outils pour le soigner. Les antibiotiques sont efficaces sur la tuberculose. Et ben, c'est vraiment une grave faute de santé humanitaire déjà et de santé publique de laisser une tuberculose sans soins parce que sans logement, donc on l'a perdu de vue et sans soins. Alors on a des structures en France qui s'appellent les CLAT, j'ai oublié ce que ça veut dire, de lutte contre la tuberculose, qui sont là pour justement éviter ça parce que c'est un drame de santé publique, un patient qui crache du béca. Béca, c'est bacille de Koch, responsable de la tuberculose, dans le métro. Bon, même si aujourd'hui on est masqué, c'est un drame de santé publique. Donc il y a des structures qui existent, comme les CLAT, pour éviter ça. Mais il y a une telle situation de mal logement, il y a une telle aggravation des choses que je me demande si aujourd'hui, mais là je suis pas, j'ai pas interrogé le CLAT avant de venir, mais s'ils arrivent à remplir leur mission qui est éviter à tout prix ce cauchemar que vous nous décrivez.
Et des problèmes à tous les niveaux. On y pense encore une fois pas forcément. Manuel Domergue, c'est très compliqué de se faire à manger, de se nourrir correctement quand on n'a pas de cuisine. Et on disait tout à l'heure, des familles qui sont expulsées, qui sont à la rue, ça veut dire que y compris des enfants, eh ben, on mange quoi des sandwichs, un bout de pain, ce qu'on trouve là et ici. En tout cas, on n'a pas un vrai repas en famille pour grandir et pour bien se nourrir. Et ça pose de vrais problèmes aujourd'hui en termes de nutrition chez les plus précaires.
Oui, c'est le drame de la vie à l'hôtel. Il y a 75 000 personnes toutes les nuits qui dorment dans des hôtels sociaux qui ne sont pas des hôtels de bonne qualité.
Hein. Non, c'est
parfois, des chambres. Parfois pendant des années. Et souvent, il n'y a même pas de coin cuisine. Et donc, ça veut dire qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. 90% des personnes dans ces conditions de vie sont en insécurité alimentaire parce que quand on ne peut pas se faire à manger, on est dépendant de la junk food qu'on peut acheter ou qu'on peut se faire distribuer via les distributeurs alimentaires. Mais on perd toutes les qualités nutritives d'une cuisine familiale. Et puis aussi, la nourriture, ce n'est pas simplement s'alimenter, c'est aussi vivre ensemble, transmettre des traditions culinaires, etc. Et tout ça, c'est perdu. Alors quand on vit à l'hôtel pendant, imaginons, un mois ou deux, le temps de trouver une solution de logement, ce ne serait pas grave. Mais ça dure des années, parfois ça dure 10 ans pour des ménages. Ça coûte extrêmement cher pour l'État, donc c'est totalement absurde. Et les personnes sont en situation d'errance permanente. Souvent, pourquoi on est dans une situation absurde? Parce que l'État refuse de régulariser des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire. Et donc, elles restent sur le territoire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, avant, in fine, d'obtenir des papiers. Pourquoi on ne leur donne pas des papiers plus rapidement pour éviter cette situation qui est tout simplement absurde et inhumaine?
Alors, un débat public, hein, on a un petit peu parlé de tous ces aspects. Docteur Maddy Denon, vous, si vous aviez quelqu'un en face de vous qui avait les clés du pouvoir et de cette santé, il nous reste peu de temps, 30 secondes, vous lui diriez quoi?
Il nous faut des logements, construire des logements. Je vois en consultation des jeunes de 30 ans qui sont déjà à la rue, qui passent un petit peu chez les copains, copines pour être hébergés, des logements. Et pourquoi on a stoppé, alors je me tourne vers vous, Monsieur Domergue, mais vous avez peut-être. Mais pourquoi on a diminué la construction des logements sociaux alors que c'est, on vient de le voir aujourd'hui ensemble, quelque chose de si important pour la dignité humaine, pour l'avenir de nos enfants et puis pour la santé, pour réduire les inégalités sociales de santé. Pourquoi cette diminution de la construction des logements sociaux? Voilà ma demande.
Et c'est une question qui va rester en suspens parce qu'hélas, on n'a pas de réponse aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation à tous les deux. Énormément de choses à dire hein, sur ces questions. Encore merci docteur Maddy de Nantes et merci à vous Manuel Domergue. Et c'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, à Cetoussa Maki, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurent Hérault. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner à atteindre vos objectifs.